Et je compte aujourd'hui vous parler donc de Estelle Satabin. C'est une sainte moderne, une sainte d'aujourd'hui. Je la canonise comme ça. Je ne suis pas tout seul d'ailleurs à dire que c'était une sainte, car tous ceux qui l'ont connue, elle est morte il y a exactement un an aujourd'hui au Gabon, en Afrique. Eh bien, cette Française est morte vraiment comme une sainte. Elle n'était pas très âgée. Elle est née en 1949. Et elle est morte en 1995, comme je viens de vous dire. Et le frère Ephraim, le fondateur et responsable de la fameuse communauté des Béatitudes, qui est répandue à travers le monde, ils ont fondé ça il y a à peine plus de 20 ans, je pense. Et alors, il écrit, « Je ne doute pas qu'Estelle Satabin, fut une sainte des derniers temps, non pas une pauvre sainte, mais une sainte pauvre. Une sainte aspirée par la sainteté des pauvres, des tout-petits, devinant en eux un principe rédempteur tel que les justes et les bien portants ont tant de mal à admettre. Il ajoute, je crois aussi qu'elle est exemplaire pour nous. Oui, exemplaire d'un nouveau type de saint, des saints cachés, ordinaires, qui incarneraient à la fois la doctrine de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce sont deux saints dont je vous ai déjà parlé à Rencontre spirituelle. Et le frère Ephraim termine en disant une voix de toute petite enfance, immergée en Marie, et dont l'apparence est celle de la Sainte Face. Je crois que c'est très bien résumé, la vie de cette femme très belle, une très belle blonde aux beaux yeux bleus, un beau sourire, une femme magnifique. Sa mère pensait entrer au couvent. Elle s'appelait Marie-Jeanne. Et à la place, elle a épousé Pierre Satabin. Pierre Satabin, qui est revenu profondément traumatisé de la fameuse guerre en Indochine où la France a combattu longtemps. Il a été prisonnier 5 ans. Ce mariage était plutôt le fruit d'un arrangement que d'un mariage d'amour véritable. La petite Yvette, qui se fera appeler Estelle, plus tard Estelle Satabin, est née le 19 janvier 1949. Elle est née à Margny, près de Compiègne. Près de Compiègne, c'est-à-dire pas loin, finalement, de Trelibreuil, là où Jean Vanier, que tout le monde connaît, ce Québécois qui a fondé l'Arche, toutes ces arches à travers le monde, il y en a une centaine. Alors, elle est la seconde fille, cette petite Yvette, future Estelle, de 3 filles qui sont baptisées au moment de leur naissance et consacrées en même temps à la Sainte Vierge. Dans cette famille, tout respire de la présence de Dieu. Et tout ce monde vit chez le grand-père maternel. La maison de ce grand-père est confiée au Sacré-Cœur de Jésus. Et le soir, d'ailleurs, à travers le mur, les petites filles, dont Yvette, Estelle, entendent parfois leur grand-père qui prie le chapelet. Le contexte familial est difficile quand même, et même un peu désespéré parce que l'entreprise commerciale de leur grand-père s'effondre. Et puis, leur père, Pierre Satabin, est alcoolique. Et il a eu des cures de désintoxication qui n'ont pas marché. Il est devenu maniaco-dépressif. N'oubliez pas, il a été prisonnier 5 ans en Indochine. Puis il connaît des périodes d'internement psychiatrique, ce qui affecte beaucoup les enfants. C'est pas facile à porter tout ça. Alors, la petite Yvette trouve secours et réconfort dans l'éducation religieuse que sa mère lui transmet. Et adolescente, elle est toujours joyeuse. Elle chante facilement. Puis elle remonte le moral de chacun. Elle devient très, très jolie, exubérante. Elle est féminine. Elle est même attirée par les arts, par la mode. Sa mère s'en inquiète un peu. Elle a peur qu'elle dérive. Elle lui lance un jour, d'une façon un peu audacieuse, je trouve ça un peu audacieux de la part de sa mère, « Mais si tu continues comme ça, Yvette, tu vas devenir une pute. » Oh là là, alors la petite fille est effondrée par ses paroles. Elle envisage d'en finir avec cette vie. Où la pauvreté finalement s'installe. Et puis, il y a de la violence dans la maison à cause de son père qui boit, même quelques coups parfois. Et puis, une fois arrivée en haut d'une falaise, Elle ne veut plus sauter. Qu'un crucifix à la main. Puis alors, elle renonce au suicide. Sa foi l'emporte contre le suicide. S'il serait été le suicide d'un enfant, hein, 14 ans. Finalement, à 15 ans, il n'est plus question pour elle de continuer cette vie familiale. Alors, une tante accepte de la prendre en charge à Paris. Ça va beaucoup l'aider, ça. Yvette y rencontre souvent sa cousine, qui est une artiste à Montmartre. Vous savez, Montmartre, c'est cette butte où il y a le fameux lieu de pèlerinage consacré au Sacré-Cœur. Il y a aussi un Carmel, hein. Puis il y a une place où beaucoup d'artistes, le soir, font des tableaux, vendent leurs tableaux, font des portraits. Alors, sa cousine et elle vont être à l'origine de toute une montée spirituelle qu'elles vont faire ensemble. Et sa tante et sa cousine s'en occupent beaucoup. Ils vont s'occuper de sa vocation. Et afin de ne pas regarder en arrière, dans un passé hein, qui est triste, bien la petite Yvette, notre future Estelle, se fait désormais appeler Estelle. Alors on ne parlera plus que d'Estelle. Pour être indépendante, Estelle renonce finalement aux arts plastiques qu'elle aime beaucoup. Elle suit des études d'infirmière grâce à une bourse d'État. Elle séjourne à la salle Pétrière, vous connaissez ça, cet ancien arsenal là, près de Paris, ou plutôt à Paris, qui a été transformé en hospice par Louis XIV, par le roi Louis XIV, pour y accueillir les mendiants, les itinérants, et les femmes criminelles aussi. C'est aujourd'hui un hospice, n'est-ce pas, pour les malades mentaux. Alors, elle séjourne là pour y travailler. Elle souhaite s'occuper des petits vieux et des mourants. Mais finalement, elle est nommée au service des prématurés, les enfants qui naissent trop tôt, là, de l'hôpital Necker à Paris. C'est un hôpital très, très important, l'hôpital Necker. Elle y veille de nombreuses nuits. Elle baptise beaucoup de nouveaux-nés. Avec son sens inné du service et de sa générosité, bien, elle témoigne déjà de Jésus dans un foyer de jeunes travailleurs où elle essaie d'aider ces jeunes hommes. Elle participe à des camps avec eux. La proximité de l'arche de Jean Vanier, n'est-ce pas, à Trolly, dans l'Oise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui permet de connaître le père Thomas Philippe, que j'ai connu moi aussi à l'Arche, où j'ai déjà fait un film sur Jean Vanier en 1968. Un beau film que j'avais eu plaisir à faire. Et le père Thomas Philippe est un dominicain, c'est un saint, ça. Et quand en 1966, sa cousine, Estelle, s'engage dans les foyers de charité à Châteauneuf-de-Galore, auprès de Marthe Robin, bien Estelle la rejoint pour faire sa première retraite. Je vous rappelle que Marthe Robin et cette femme, et c'est authentique, c'est prouvé scientifiquement, a vécu 50 ans sans dormir, sans manger et sans boire, et elle est morte au début des années 80. Je vous en parlerai un jour, c'est prouvé scientifiquement, elle a été observée très très étroitement par des tas de gens, car elle était de réputation mondiale, Marthe Robin. Or, Estelle, à 18 ans, elle reçoit là, auprès de Marthe Robin, un amour fou du bon Dieu. Et alors qu'elle est à la chapelle en prière dans le silence de la nuit, une voix lui demande de tout lui donner. Et sans hésiter, elle répond « Oui ». Comme la Sainte Vierge a répondu à Gabriel, à l'archange Gabriel, « Oui ». Quand on dit « Oui », tout se transforme, et alors elle pense au Carmel. Pas étonnant, évidemment, avec son caractère tout entier, hein, passionné. Alors elle a rencontré, évidemment, Marthe Robin, qui devient sa confidente et amie intime, et qui va la confirmer à maintes occasions dans ses choix, car Marthe Robin a toujours su conseiller tout le monde, les foules qui venaient auprès d'elle, elle a su conseiller quantité de gens, c'est extraordinaire, il faut lire sa vie, c'est passionnant. Hein? Beaucoup de vies sont publiées sur cette Marthe Robin. Alors notre Estelle Satabin fait un voyage en Inde. Ce voyage lui est une révélation. Il veut se consacrer aux hommes, ses frères, disait-elle, les plus démunis, les plus nécessiteux médicalement, spirituellement et humainement. Et son désir d'œuvrer pour les pauvres, eh bien, Marthe Robin le confirme. Et Estelle termine donc son contrat de 5 ans avec l'assistance publique. Elle entre au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galaure le 31 janvier 1975 auprès de Marthe Robin. Elle a 26 ans. Finalement, elle est envoyée au foyer de charité, car il y a beaucoup de foyers de charité de Marthe Robin à travers le monde. Nous en avons un ici dans les cantons de l'Est. Elle est envoyée au foyer de charité d'Aledjo, au Togo, où elle assiste impuissante à un décès dans une pauvre famille africaine. Puis là, elle prend conscience que la mort se vit là bien autrement qu'en réanimation néonatale, comme elle a si souvent travaillé auprès des enfants nés prématurément à l'hôpital Necker. Alors, lorsqu'en 1977, Estelle Setabin accepte la proposition qui lui est faite de partir à Libreville, au Gabon, en Afrique, c'est tout près du Cameroun, eh bien, Marthe Robin lui dit « L'Afrique sera pour vous un long et douloureux désert. » Elle ajoute « Vous êtes appelé à perdre tout avoir pour que Jésus soit tout, car il est tout et nous donne tout. » Je vous répète ces paroles de Marthe Robin, cette immense sainte du XXe siècle. « Vous êtes appelé à perdre tout avoir. » Toute possession, tout. Tout votre petit moi. Vous êtes appelé à perdre tout avoir pour que Jésus soit tout, car, puisqu'il est Dieu, n'est-ce pas, il est tout et nous donne tout. Qu'est-ce qu'il nous donne? C'est une sérénité profonde, un ancrage, une fermeté, un bonheur, une façon de voir les choses qui est tellement différente. Alors Estelle Setabin fait ses adieux au Père Divini, son directeur spirituel. Elle note quelques-unes des paroles qu'il lui a adressées. Voici des paroles de son directeur. « Tu es choisie pour être la petite disciple de Jésus. Cherche à lui rester très abandonné. » Et lui dit surtout l'important, c'est ce que nous sommes et non pas ce que nous faisons. Et il lui dit plusieurs fois, « Je suis appelé à la sainteté. » Répète-toi ça. Notre époque n'a besoin que de saints. Notre époque n'a besoin que de saints. Il ajoute aussi, « Voir tout sur le balcon de l'éternité pour ne pas vivre comme le monde. » En somme, si on regarde ça du haut de l'éternité ou du fond de l'éternité, notre vie, on s'aperçoit que c'est un instant et que mieux vaut donner cet instant à Dieu au complet. Il lui dit aussi le Magnificat. Il faut se blottir comme un tout petit dans le cœur de Marie. Alors, le 18 février 1977, Estelle Setabin arrive donc au foyer de Libreville, au Gabon, où elle va s'engager définitivement le 3 mars 1979. Elle se confie par courrier à sa tante à compter de ce jour-là, sa tante à Paris qui s'est occupée d'elle. Elle met en sa tante toute sa confiance et toutes deux se portent l'une l'autre dans la prière. Et ça, c'est très important. Et avec le père François, responsable du foyer de charité de Libreville, elle porte Jésus-Eucharistie dans les bas quartiers où la Légion de Marie l'a introduite. Elle est attirée par les exclus de la société. Elle introduit comme résidente au foyer de charité une vieille Camerounaise qu'elle a trouvée, imaginée parmi de vieilles boîtes de conserve au fond des matitis. J'imagine que ce sont des dépôts de déchets. Bientôt, l'archevêque du lieu, Monseigneur Anguillet, lui demande de porter la communion aux malades les plus nécessiteux. Elle écrit d'ailleurs à ce sujet, « L'évêque a permis que ma voiture devienne carrosse du Saint-Sacrement, mais dans le plus grand silence, alors chut. » Un statut particulier au sein du foyer permet à Estelle Setabin de postuler à un poste d'infirmière à l'hôpital de Brousse de Mélène, non loin de Libreville, alors qu'on lui propose la responsabilité d'un service à la stupéfaction générale, mais elle choisit avec insistance de s'occuper de quoi? d'un pavillon qu'on appelle Batouala. C'est le secteur de la gériatrie, les vieux noirs qui sont là. Et elle veut partager les mêmes conditions salariales qu'une infirmière d'État gabonaise, c'est-à-dire un très petit salaire. Elle obtient de garder ses après-midi pour l'accueil des retraitants du foyer de charité. Le matin, elle se consacre donc aux mourants. Elle comprend que sa mission, outre celle de soulager leurs souffrances, ça consiste à les préparer à la rencontre avec Dieu, notre Père. Et cet hôpital, tout entier, est très pauvre. Les malades ne reçoivent qu'un repas par jour, souvent une seule demi-baguette garnie. Une demi-baguette, vous savez, c'est les longs pains. Je l'explique pour quelques personnes qui se demanderaient ce que c'est qu'une baguette. Ce sont les longs, longs pains à la française, un peu durs, là, mais très frais à l'intérieur, c'est très bon. Alors, garni, ça veut dire qu'il y a un peu quelque chose dedans. On coupe ça sur la longueur. Alors, c'est tout ce qu'ils mangent, un repas par jour, comme ça. Parce que les subsides n'arrivent pas, le gouvernement s'en occupe guère. L'eau, parfois, n'est rétablie qu'après plusieurs jours de coupure, imaginez. Puis les malades, notamment ceux qui sont incontinents, peuvent enfin être lavés quand l'eau revient. Estelle s'occupe de chacun en particulier. Cette très belle femme, blonde, distinguée, elle apporte son attention, ses soins, et si possible, quelques vêtements de rechange et de la nourriture, pour compléter, évidemment. Nourriture qu'elle recueille en ville auprès de ses nombreux amis. Elle a le don, d'ailleurs, de plaider pour les pauvres. Et tout l'argent qu'elle récolte sert à améliorer le sort des malades. Vous savez qu'on a beaucoup de photos d'elle, parmi ces noirs. C'est admirable de la voir toute fraîche, toute blonde, parmi ces gens. Le contraste est tellement stupéfiant, mais c'est admirable, c'est très beau. Et progressivement, avec l'aide du foyer de Libreville et celle de Marthe Robin, eh bien Estelle Satabin, avec son sens artistique inné, elle fleurit le pavillon de bougainvilliers, elle peint les murs et les lits de couleurs vives. Elle orne même le service de grandes icônes, car elle aime beaucoup les icônes russes. Elle-même, elle est attentive à rester femme. Et lorsqu'à l'occasion, des amis lui donnent des vêtements, elle peut ainsi être un peu coquette. Mais c'est pour vivre comme une vraie femme, dans toute sa féminité, car elle est demeurée une vraie femme. Le plus gros de son travail consiste à laver les corps, des corps impotents, à les soigner. Elle a une grâce particulière, elle perd l'odorat. Alors ça lui est une bénédiction, évidemment, car elle seule peut tenir au-dessus des croûtes, disons oui, des croûtes et des gales profondes qu'elle doit gratter pour permettre la cicatrisation des tissus. Ce travail achevé, tout est prêt à midi pour la prière et la méditation des lectures du jour avec les patients. Et d'un seul cœur, les patients prient et implorent. Elle fait renaître ces pauvres hommes, pauvres femmes, par la prière. Et dans cet univers médicalisé très spécial, règne finalement une atmosphère tout à fait irréelle dont Daniel Ange a dit « J'ai vu le ciel sur la terre ». Elle-même écrit « Tout l'hôpital est frappé par ce caractère de joie qui émane de mon service et des malades, mais il est consacré chaque matin au cœur immaculé de Marie, et c'est là le secret ». Elle le consacre à Marie, qui l'offre à Jésus, qui évidemment le plonge dans le sein du Père. Alors infatigable, Estelle prend également en charge des grabataires. Elle demande à pénétrer dans la prison centrale de Libreville. Elle obtient d'accueillir à Batouala, dans son pavillon, des prisonniers mourants qu'on libère. Plus tard, des prisonniers enchaînés, non malades, seront mis à sa disposition pour faciliter les manutentions puis les soins, parce qu'il faut soulever les malades. Et ces prisonniers sont souvent beaucoup plus forts qu'elle. Alors le département de la psychiatrie est si proche de son bâtiment que l'on peut entendre les hurlements et les vociférations des patients enchaînés par les fers et par leur folie. On se me rappelle quand maman attendait la mort à Sainte-Dorothée, il y avait une voisine comme ça qui criait toute la journée. Pauvre maman. Mais elle endurait ça avec une foi, puis elle avait une telle pitié, elle priait pour cette pauvre femme, qui avait plus de 100 ans. Alors notre Estelle Satabin ne reste pas insensible aux cris qu'elle entend. Elle voit dans ses détresses le manque d'amour qui est à l'origine de toute souffrance. Oui, le manque d'amour qui est à l'origine de toute souffrance. Elle aime ses malades, oui, elle les aime. Et sa présence dynamique et sereine, et sa façon de leur parler sans détour, les amène à Jésus. Il est probable que ses propres expériences familiales, qui ont été bien pénibles, je vous les ai racontées un peu tout à l'heure, mais ça lui permet, tout ça, ces expériences-là, ça lui permet d'être très sensible et attentive aux détresses psychiatriques qu'elle côtoie et qu'elle affronte sans peur, car son père, à Estelle Satabin, Pierre, était malade après son internement en Indochine. Alors elle décide de s'occuper des malades psychiatriques après s'être astreinte à suivre des cours à la faculté. Alors il faut voir Estelle, cette blonde, jolie, raffinée, au milieu de ses dangers, qui en ferait reculer plus d'un. Elle apporte tous les matins les croissants et le pain qu'un ami libanais lui donne. Après les soins de Batwala, sa visite est consacrée au chapelet en psychiatrie. Alors tous y assistent, oui, tous y assistent, et les cris s'estompent au rythme de la prière récitée comme sous l'effet d'un immense mantra chrétien. Et le combat est âpre avec les sorciers puis les féticheurs, car il y a des sorciers, des féticheurs, je les ai vus, moi, en Afrique, et c'est terrible. Alors, Monseigneur, l'évêque la mandate pour des exorcismes, après jeûne, retraite et prière, car on n'exerce pas un certain pouvoir contre Satan sans jeûner, sans faire une retraite, sans se confesser, sans prier. Et elle vit de terribles combats avec les forces du mal, qui font tant de dégâts dans les cœurs, par tous ces rites magiques des sorciers. Et sa prière devient plus forte. Elle implore l'aide de Marie jusqu'à ce qu'elle voie le malade s'apaiser. Elle sait alors que le mal est vaincu. Alors Estelle Satabin loue Dieu de n'abandonner aucun de ses enfants. Dans ces moments très difficiles sur le plan social, il n'y a pas de place pour la critique d'un système économique ou politique. Estelle ne tombe jamais dans le piège qu'on lui tend parfois. Ici, il n'y a plus ni blanc ni noir, il n'y a que des pauvres. Et elle-même se compte parmi eux, et dans son bâtiment, pas de dispute. Les malades servent les autres malades. Il y a une solidarité entre des frères qui souffrent dans l'épreuve. Alors l'aveugle abandonné est gardien de la salle. Quand il a besoin de se déplacer au dehors, il soutient le boiteux qui le guide. En 1983, elle a 34 ans, son service s'avère trop exigu, trop petit, pour recevoir tous ceux qui viennent y prier. Alors Estelle Satabin obtient d'aménager une chapelle dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs, dans un hangar désaffecté entre le service de psychiatrie et le pavillon Batwala. Et cette petite église devient peu à peu la paroisse de Mélène. La chapelle de l'hôpital est gardée par ses petits vieux, qui ne réclament pas de soins, mais qui sont sans famille. Alors installée, elle, derrière l'autel, en gardienne de la présence réelle de Jésus, c'est-à-dire une petite communauté de vie s'instaure, qu'on appelle la bergerie. Mais la chapelle sera condamnée en 91 par les autorités de la psychiatrie. C'est une sainte du renouveau charismatique dont je vous parle. Je n'ai pas osé vous le dire au début, de crainte de vous faire peur. Mais vous savez que grâce au renouveau charismatique, qui n'a que 25 ans à peu près cette année au Québec et en France, ce renouveau, qui a été appuyé par le cardinal Sunens, qui a été endossé par les autorités du Vatican, ce renouveau, on peut lui reprocher certains excès. Comme on peut reprocher certains excès aux premiers jésuites, comme on peut reprocher certains excès aux premiers franciscains, comme on peut reprocher certains excès à toutes sortes de mouvements spirituels dans l'Église. Cessons donc de critiquer, regardons les points de vue d'un point de vue positif, et voyons dans le sourire d'Estelle Satabin, dont les images se répandent beaucoup, cette sérénité que donne la vraie foi et l'Esprit Saint. Elle a grandi là. Estelle Satabin, qui est vraiment une sainte des temps nouveaux. Je vous ai raconté combien elle s'occupait des malheureux et des délaissés. Or, elle sera accompagnée à un moment donné par un Ivoirien, c'est-à-dire un Noir originaire de la Côte d'Ivoire, Victor Adangba. Il va participer avec Estelle à une session du renouveau charismatique à Ars. En 83, ils font l'expérience vraiment profonde du renouveau charismatique. Et Estelle Satabin est soutenue par Sister Hélène, qui est supérieure du monastère des Clarisses. Et Estelle Satabin convainc alors Mgr Anguillet, son évêque, de participer en France à une session du renouveau charismatique pour que l'Église du Gabon en goûte les fruits. Elle est audacieuse. Et après cette effusion de Pentecôte, avec la bénédiction de l'archevêque, Victor Adangba, l'Ivoirien, et Estelle Satabin entreprennent de faire rayonner le renouveau gabonais. Le Gabon sera envahi par un enthousiasme spirituel profond. Une vision, d'ailleurs, la prépare à une grande épreuve. Sur un bel arbre, une branche cassait sous le poids d'une multitude de fruits, raconte-t-elle. En effet, cette nouvelle phase spirituelle qui s'ajoute à son activité comme, on pourrait dire, comme hospitalière, mais ça produit un tel éloignement de la vie du foyer de charité qu'en février 85, alors qu'Estelle Satabin se trouve en France pour 2 mois de vie érémitique où elle fait une longue retraite, il lui est demandé de mettre un terme à toute activité extérieure au foyer de charité de Libreville ou de le quitter. On lui demande de se confiner au foyer de charité. Alors elle écrit « Je ne veux faire que la volonté de Monseigneur et pas celle des hommes », répète-t-elle. Alors, extrêmement ébranlée, elle a l'intention de ne pas revenir au Gabon. Puis elle part pour discerner son avenir à Cordes. Oh, Cordes, c'est dans le Tarn. J'y suis allé en 1950 au joli petit village à 25 kilomètres d'Albi. Oh, c'est un beau village médiéval. Je me souviens que j'avais servi la messe très tôt le matin, pauvre curé, il n'y avait personne à sa messe, je pense 3 vieilles femmes. Il n'y avait presque personne aux messes le matin comme ça dans les campagnes en France. Et puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait eu personne pour servir la messe, car ça prenait un homme dans ce temps-là pour servir la messe, ou un garçon. J'avais 24 ans. Et puis il était tellement content qu'il m'avait invité à prendre le petit déjeuner avec sa mère au presbytère. Et quel prêtre merveilleux c'était. Prêtre isolé, mais prêtre merveilleux. Alors elle va donc à Cordes, où il y a une grande communauté des béatitudes, là. Elle cherche, elle se demande si Dieu l'appelle à rentrer là. Mais elle a une nouvelle vision, elle voit une nuée de ses malades qui sont déjà au ciel et qui l'appellent à repartir. Puis elle reçoit une lettre de Mgr Anguillet qui la confirme dans son apostolat au service de l'Église du Gabon. Puis il y a le père Thomas Philippe, dont je vous ai parlé, là, de l'Arche de Jean Vanier, qui est devenu son directeur spirituel à la mort du père Diffiné, mais le père Thomas Philippe l'encourage à persévérer. Alors tous ces signes, après des mois de douloureux discernement, la décident à revenir pour trouver sa vraie place en Afrique. Alors à Libreville, au Gabon, son absence prolongée et inexpliquée a été cruellement ressentie par des centaines de pauvres qu'elle visitait dans ce temps-là en brousse, hein, ces malades, ces fous qui continuent à prier le chapelet avec ferveur dans la seule intention d'obtenir de la Sainte Vierge le retour d'Estelle, leur Estelle Satabin. Et le 24 juin 1985, elle revient. Alors elle se réfugie chez les Clarisses, puis logée dans une poustinia. Les Russes savent ce que c'est qu'une poustinia. Un ermitage, un endroit où l'on se retire complètement seul pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, ce n'est pas facile, avec la Bible, avec une petite chaise, un coussin, une petite paillasse. Alors elle se loge dans une poussinière avec la présence réelle, oui, la présence réelle de notre Seigneur. C'est à l'évêché qu'elle a cette poussinière, sous la protection paternelle de son évêque, Monseigneur Anguillet. Puis elle reprend son travail. Alors, elle soigne les malades. Au mouroir, il y a une magnifique solidarité qui s'opère dès qu'un malade agonise. Tous dans la salle commune, se rendent compte qu'il y en a un qui va mourir, alors ils prient le chapelet. Et même à l'absence d'Estelle, bien, ils intercèdent, car ils ont compris qu'il faut prier pour ceux qui meurent. Elle leur parle de la mort, d'ailleurs, comme d'une autre vie qui va se poursuivre avec Jésus au ciel. Alors un des malades a dit, « Jamais on ne m'a expliqué Dieu comme toi. » Elle commente, « C'est vrai que Marie me donne la grâce de les préparer et de dire les mots justes, sachant trop que dans leur souffrance, le baratin les assommerait. Et puis, je les porte fort dans l'adoration. » Et je crois que tout se joue là. Alors Estelle crie à l'agonisant, « Quand tu seras là-haut, n'oublie pas, dis bien à Jésus, de venir vite nous chercher. » Et elle raconte que, parfois, elle voit Marie à la tête des mourants, pour qui elle prie. Le mort est toiletté, magnifiquement habillé, avec costumes et robes achetées au marché de Montbouet. Une fois veillé, le corps recouvert de fleurs quitte la salle, dans la joie de l'espérance de la résurrection. Estelle ne pleure pas, mais elle répète, « Il est heureux au royaume de Dieu. Vous, les vivants, convertissez-vous. Il est encore temps. » D'ailleurs, Marthe Robin avait vu juste dans l'âme de Estelle Satabin, son enfant, qu'elle le considérait comme son enfant. C'est dans un mouroir que son âme vibrerait, croyait Marthe Robin. Et dès 1986, Monseigneur Anguillet accueille les premières campagnes d'évangélisation. Et à sa demande, la communauté des Béatitudes, grande communauté charismatique, s'installe à Libreville. Cette communauté est d'ailleurs installée au Québec, à Beauceville. Je vous recommande d'y aller. C'est une petite communauté dans une ancienne école, mais il y a un feu sacré, là. C'est pas facile d'y aller. C'est bien loin. En 1990, l'évêque, Mgr Anguillet, lui fait don d'un terrain et donne aussi une parcelle à Estelle. Elle a 41 ans. Il soutient l'intuition d'un village pour les pauvres au centre de la cité. Il désire qu'Estelle développe au cœur de l'Église le charisme qu'elle exerce à l'hôpital de Mélaine. Le père François-Xavier, qui est le berger des Béatitudes, on appelle ça comme ça les supérieurs de ces communautés, qui peuvent être des prêtres, qui peuvent être des sœurs, qui peuvent être des laïcs, car c'est une communauté où il y a de tout. Des prêtres, des frères, des sœurs, en costume, pas de costume, et de très beaux costumes d'ailleurs, de type monastique, et des laïcs, même des gens mariés et des enfants dans cette communauté. Alors le père François-Xavier, qui est berger des Béatitudes, la confirme dans l'expression de nouveaux charismes. Prophétie, parole de connaissance, exhortation et guérison. La complémentarité de tous ces charismes est telle que ça permet la multiplication des groupes du renouveau dans Libreville, puis dans les autres villes du Gabon, où de nouvelles campagnes d'évangélisation se succèdent. Estelle Satabin, qui est imprévisible, qui est déroutante, fait les rencontres que Jésus et Marie veulent qu'elle fasse, devenue amie de l'agneau des Béatitudes. Elle aime également, l'agneau des Béatitudes, Christ évidemment, elle aime également la communauté Saint-Jean, grande communauté magnifique, et les enseignements qui déverse le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur de la communauté Saint-Jean, qui est une immense communauté, qui peut avoir en une seule année 80 ou 100 vocations. C'est immense, cette nouvelle communauté fondée à peu près au même moment, dans les années 70. Père Marie-Dominique Philippe, grand théologien, professeur à Fribourg, en Suisse, dominicain. C'est lui, d'ailleurs, le Père Marie-Dominique Philippe, qui va devenir, à la mort du Père Thomas, là, le dernier directeur spirituel d'Estelle Satabin. Alors, toujours en communion avec les foyers de charité, Estelle Satabin vit une parfaite obéissance à l'Église et une profonde soumission à son évêque. Ce sont aussi les années au cours desquelles elle découvre Medjugorje, où elle se rendra à plusieurs reprises. Et les messages de la Sainte Vierge, auxquels elle répond de tout son cœur, l'enthousiasme. Elle jeûne donc les mercredis et les vendredis, comme beaucoup de gens qui sont passés par Medjugorje. Vous savez qu'il y a, quoi, peut-être 11 ou 12 millions, peut-être même plus de gens qui sont allés à Medjugorje depuis une quinzaine d'années. Je vous rappelle, Medjugorje, pour ceux qui l'ignoreraient, s'il y en a qui l'ignorent, que c'est dans l'ex-Yougoslavie. C'est tout près de Mostar qui a été bombardé. Vous savez, la guerre règne tout autour de Medjugorje. Les bombes éclatent. Tout est ensanglanté. Ces peuples s'entre-déchirent dans l'ex-Yougoslavie. Et Medjugorje est miraculeusement préservé. Pas une bombe. Rien. Rien. On peut même y aller en toute quiétude. Ça semble curieux de s'y rendre, même de nos jours. Mais les gens s'y rendent et disent qu'ils entendent des bombes au loin, mais qu'il ne se passe rien à Medjugorje. C'est comme si c'était préservé par des forces fantastiques. Alors elle prie aussi chaque jour le rosaire. Elle approfondit ainsi sa consécration mariale, vécue déjà depuis de longues années grâce au foyer de charité de Marthe Robin. Il y a des gens qui me diront que je suis tombé dans des choses un peu surprenantes. Vous savez, c'est moi qui ai présenté à la télévision de Radio-Canada le premier film sur Medjugorje qui s'intitulait « Et si c'était vrai ?» J'ai présenté ça au tout début des années 80. Oui, c'était passé à second regard. Et j'ai fait en même temps une entrevue avec l'abbé Laurentin. Et j'avais montré à l'écran les jeunes voyants qui, d'un seul coup, dressaient la tête quand la Vierge remontait au ciel. Vous savez, ce sont des films qui sont saisissants. Je ne dis pas qu'il faut croire à Medjugorje. Mais j'ai été saisi par ces choses. Ce film avait été remis par un ami qui l'avait fait, François Bray de Tours, père de 9 enfants, dont une carmélite. Après la construction du bâtiment à Libreville, Mgr Anguillet lui demande de quitter sa Poustinia pour vivre dans ce nouveau village avec les pauvres de la bergerie, donc des béatitudes, de la chapelle de Mélène, ainsi que Georges, un oblat de Saint-Jean, et Marie-Annick, une gabonaise, sa fidèle petite sœur dans la foi, comme on dit. Alors, jouxtant les béatitudes, naît la fraternité Saint-Jean. Cette communauté, je vous dis, on les appelle les gris-gris en France. Ils portent un costume monastique gris, un peu court. Ils ont souvent, ces jeunes gens, la barbe, les cheveux longs. Ils marchent comme des hommes et non pas comme des... je le dirai pas. Ils sont naturels. Ces religieux, ces religieuses sont naturels. On les voit dans le métro, dans les gares, sur les routes ou n'importe où, sur le trottoir. Ils ont l'air du monde ordinaire, avec des costumes et des barbes, et s'ils veulent porter la barbe, ils la portent, et des sandales, mais sont naturels. La foule s'attroupe autour d'eux, car on n'en voit plus de religieux dans nos rues. Mais ces jeunes religieux, par centaines, sont tellement merveilleux, pour la plupart, que ça saisit les gens. Alors donc, la fraternité Saint-Jean naît, là. Jean qui est aussi le premier de ces petits malades qu'un matin elle avait retrouvé pendu dans son service. Il s'appelait Jean, ce petit noir. Il faut vite construire une salle de la parole, hein, pour les enseignements qu'Estelle donne dans le pays entier et qui attire déjà des centaines de jeunes chaque semaine. Car elle se met à enseigner avec la permission de l'évêque. Et dans la foi, tout arrive. Les dons affluent de France et d'Afrique. Estelle Satabin, fax, elle connaît les façons modernes de communiquer. Alléluia, il est vraiment vivant, le ressuscité. Quel banquier extraordinaire quand on lui confie les comptes. Peut-être devrions-nous faire ça ici à Radio Ville-Marie. Obtenir que Jésus devienne notre banquier. Et alors, l'ambassadeur de France la décore chevalier de l'Ordre national du mérite en 1994. Et Estelle est toute étonnée. Elle écrit « du mérite de je ne sais quoi ». Elle est taquine, hein? Elle a des dons inattendus qui lui arrivent d'un peu partout. L'association des amis d'Estelle et de la fraternité Saint-Jean se crée fin 1994 pour soutenir la fraternité. L'Ordre de Malte, de son côté, la nomme chevalier de l'Ordre hospitalier en 1995, l'année de sa mort, et de nouveaux dons permettent à la maison de s'agrandir. Estelle Satabin désire, très simplement, poser une statue de la Vierge de Lourdes à l'entrée du jardin. Et elle désigne le lieu de son installation. Et Georges y trouve une source. Oui, c'est curieux, il y trouve une source d'eau fraîche. Et Estelle de commenter, il faudrait installer une piscine pour nos malades. Et que la Vierge opère des guérisons. Comme à Lourdes, vous savez que là où Sainte Bernadette Soubirous, cette petite fille, avait reçu l'ordre de gratter le sol de Marie. Bon, tout le monde s'est moqué de ça. Je sais, on se moque de ça. Moi, je ne m'en moque pas, j'y crois. Et elle a donc gratté dans une obéissance aveugle le sol. C'est devenu de la boue. On a pris Bernadette Soubirous pour une folle. Mais la Vierge avait raison. Et de cette boue, tout à coup, est sortie une source qui n'a jamais cessé de couler depuis le milieu du siècle dernier, et qui abreuve des piscines de ciment, des piscines, c'est-à-dire des petites piscines, là, c'est pas très creux, évidemment, et on y trempe les malades, dans cette eau comme dans un bain de baptême, une commémoration du baptême, l'eau qui symbolise la grâce de Dieu, la présence de Dieu, le lavage, quoi, le nettoyage. En nettoyant le corps, on nettoie l'âme. Et il y a des guérisons physiques, mais surtout des guérisons morales, spirituelles. À Lourdes, en 1789, au cours d'un rassemblement des Béatitudes, la communauté des Béatitudes, Estelle Satabin est touchée par une parole de connaissance. Bon, vous vous demanderez ce que c'est. C'est une inspiration qu'ils disent être de l'Esprit-Saint. Et pourquoi pas? Vous savez, dans l'Épître aux Corinthiens de saint Paul, tout ça est décrit que les chrétiens, les baptisés, auront ces dons-là. Pourquoi ne pas y croire qu'on peut recevoir de Dieu ces dons? On n'a pas à se vanter d'avoir un don. Un don est un don. On n'a qu'à rendre grâce à Dieu. Vous m'avez donné un don. Maintenant, je voudrais être transformé, Seigneur. Transformez-moi. Le don ne me transforme pas. Le don est extérieur à moi. Mais moi, mon petit moi, Seigneur, transforme-le. Ça rend pas saint des dons. Alors elle avait compris dans les larmes qu'elle devrait aussi se dévouer aux sidéens. Et effectivement, le sida commençait son œuvre de destruction. Et le charisme d'Estelle, connu dans Libreville, fait d'elle une accompagnatrice de choix pour les sidéens. Elle ne côtoie plus seulement des vieillards qui sont broyés par la vie, mais aussi des jeunes sidéens, des jeunes noirs révoltés d'avoir été abusés sexuellement. Elle s'ouvre à une nouvelle forme de compassion. Les sanglots sont nouveaux pour elle, et elle ne les retient plus. Ces malades humanisent doucement son âme, son corps, son cœur. Son cœur devient souffrance, son cœur devient le sanctuaire de tous ces gens. Estelle Satabin, qui craignait autrefois le contact physique, car elle n'était qu'à son Seigneur comme une vierge consacrée. Mais elle donne désormais sa tendresse aux pauvres et aux tout-petits, qu'elle laisse reposer dans ses bras. Ses blessures deviennent source d'insondables et lentes et prodigieuses mutations qui est opérée dans l'ordre de l'amour. Elle est transformée par l'amour. Et la maladie se répand alors dans toute la région. Il y a des mamans maintenant qui sont atteintes du sida. Et Estelle Satabin se voit confrontée à de nouveaux problèmes. Alors, processus de deuil, séparation des mères d'avec leurs enfants, afin qu'ils n'attrapent pas le sida, on ne sait pas trop quoi faire. Alors que les circonstances de la vie l'avaient séparée de sa mère, elle doit assumer maintenant une espèce de maternité de substitution auprès de ses petits abandonnés, dont les mères meurent. Elle recueille les orphelins, qui sont la joie de sa fraternité, et elle dit la relève spirituelle de l'Afrique de demain. Dans son service de Mélène, où elle s'occupe toujours de ses 25 à 30 malades, il y a un décès par jour, oui, un décès par jour. Et c'est trop. Avec la fraternité à gérer en fin de journée, seule, et les groupes de prière le soir, c'est trop. Hein. À la suite d'une retraite à la fraternité le vendredi saint 1995, elle est écrasée par trop de difficultés internes, puis aussi des oppositions extérieures, hein. Toujours des oppositions. C'est le mystère de la souffrance, hein, où Dieu permet, c'est étrange, que les plus proches, souvent, deviennent les persécuteurs. Pourquoi c'est comme ça? Curieux. Jalousie spirituelle. Manque d'amour spirituel. Et Estelle s'offre, dans un immense geste d'amour, avec sa fraternité, elle s'offre à la volonté divine dans les mains de son prédicateur. Elle confie à Colette, une amie gabonaise, « Cette Pâque ne sera pas comme les autres Pâques. Tu te souviens que j'ai toujours prié pour mourir un jour de Pâques, et comme ça, Jésus ressuscité viendra me chercher, et j'irai dans toute sa gloire. Alors tenons nos lampes allumées. » Alors Estelle Satabin est écrasée intérieurement par un combat inégal contre le sida. S'éveille, son propre déchirement face à la mort des jeunes, sa lutte par des conférences à travers le pays, eh bien, Estelle Satabin est également épuisée par le paludisme. Elle fait un pèlerinage à Essassa. Elle fait des jeûnes répétés, puis sa fondation aussi qui l'accable. Elle qui criait « Jésus, viens nous chercher », en même temps que ses agonisants est entendue par le maître du royaume. Et à 46 ans, le 18 avril 1995, pendant la nuit du lundi de Pâques, dans une grande solitude, elle s'effondre dans sa chambre, terrassée. Elle qui répétait « Je mourrai du sida » n'était pas loin de la vérité. À côté du corps d'Estelle Satabin, la Bible est ouverte et on peut y lire « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » C'est dans Saint Jean, au chapitre 6, verset 43. Estelle Satabin a eu des funérailles de princesse dans un rituel qui est un avant-goût du ciel. Elle était vêtue en habit blanc et honorée comme elle le faisait autrefois pour ses pauvres. Son cercueil est porté par les Gabonais, fait exceptionnel. Et son corps est enterré dans le jardin de la fraternité avec ceux qu'elle a aimés et pour qui elle a donné sa vie. Estelle Satabin est aujourd'hui avec ceux qui voient Dieu, avec les exclus et les souffrants qu'elle y a conduits. Et je crois que nous pouvons tous la prier, nous qui la connaissons maintenant. Et je la recommande en particulier à vous tous, les soignants et les soignés, particulièrement du sida. De toute façon, nous sommes tous souffrants. Et nous avons tous besoin d'aide. Nous avons tous besoin de son secours. Un jour, un jeune malade atteint du sida lui avait été confié, elle raconte, En lui donnant son lit, je lui demande son nom et il me répond, « Je m'appelle la mort. » Un frisson me saisit et je lui réponds, « Non, non, non. Ici, au milieu de nous, tu t'appelleras la vie, car à Dieu, rien n'est impossible. » Une semaine se passe avec lui, sans dialogue possible, mais tous les autres malades prient avec nous pour lui. 10 jours après son arrivée, à l'heure de la louange, il est en grand état d'épuisement. Cependant, son bras se lève et se met à battre la mesure de nos chants. Son esprit s'est ouvert à la prière. Le vendredi qui a suivi, il a pu se confesser au prêtre qui nous assiste et recevoir le pain de vie, le Christ vivant et ressuscité, avant de nous quitter 5 jours plus tard pour toujours. Voilà tout simplement ce que Notre-Dame de Lourdes peut faire à l'autre bout du monde lorsque nous nous donnons à elle. Elle avait écrit cet article quelques semaines avant sa mort.